Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le sommet des deux rives, demain lundi à Marseille, a pour ambition affichée de relancer une dynamique de coopération en s'appuyant sur 10 pays, 5 de la rive sud et 5 de la rive nord. La nouveauté cette fois, c'est l'implication de la société civile qui doit déboucher sur la sélection de projets communs faisables et finançables parmi les 272 présentés. Patricia Ricard est la chef de file des personnalités qualifiées de la société civile française. Nous l'avons jointe à Marseille à quelques heures de sa participation au forum pour cette émission que vous pouvez podcaster sur notre application Pure Radio. Bonjour Patricia Ricard.
Bonjour Éric Bataillon.
Présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, situé sur l'île des Ambièzes, c'est au large de Toulon, un établissement qui étudie la biodiversité marine et entreprend des recherches en aquaculture et sur les effets de la pollution marine. Patricia Ricard, vous avez été désignée parmi les 10 personnalités qualifiées issues de la société civile qui représente la France au sommet des deux rives à Marseille ce lundi. Vous en êtes d'ailleurs la chef de file. Rappelez-nous quel est le périmètre d'action de ce forum qui est également appelé 5 plus 5.
Alors c'est le sommet des deux rives qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le dialogue 5 plus 5 plus 1 puisque l'Union européenne est également fait partie des 10. En fait, c'est un dialogue qui est dans un axe méditerranéen occidental puisque vous allez avoir 5 pays de la rive sud qui sont l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie, et pour la rive nord, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la France. Et donc nous nous inscrivons dans ce dialogue qui consiste à faire une région économique, une région culturelle, une région unie par des enjeux communs dans lesquels aujourd'hui le développement durable et le changement climatique prennent une grande place.
Alors pour préparer ce sommet, 5 forums thématiques ont réuni les 100 personnalités de la société civile, c'est-à-dire les 10 par pays, donc 10 fois 10, 100, dont vous-même. Où précisément et sur quel thème ?
Ce forum s'est organisé puisqu'il a pour originalité d'être porté par la société civile et il s'est déroulé le long de 5 forums préparatoires qui se sont répartis sur différents pays. Alors nous avons commencé à Alger avec un forum sur le thème de l'énergie. Nous avons ensuite été à Rabat avec un forum sur le thème de l'économie. Puis nous sommes allés à Malte avec un forum sur le thème de la jeunesse et de la mobilité. Nous avons ensuite poursuivi par Montpellier qui était porté par la France sur un forum sur la culture, les médias et le tourisme. Et enfin à Palerme sur un forum plutôt environnement et autour de l'alimentation durable.
Alors le forum en Algérie, en pleine contestation populaire ou anti-système, cela n'a pas perturbé les travaux ?
Alors non, je ne vous cacherai pas qu'il y avait une certaine attente et nous étions tous un peu attentifs à ce qui allait se passer. Il faut comprendre que ce forum des deux rives s'était décidé bien en amont des événements algériens et que le forum s'est tenu en toute détente sur des thèmes très importants puisque c'est l'énergie. Et il est vrai que aujourd'hui la Méditerranée sur les deux rives doit faire un grand effort d'innovation de rupture pour justement atteindre les objectifs du développement durable, notamment ceux de l'accord de Paris. Et il y a tout un champ d'opportunités et d'innovations à mener ensemble.
Alors la chef de file tunisienne est également la chef de file des 100. Il s'agit de Wydad Bouchamaoui, qui est prix Nobel de la paix 2015 et qui est aussi une femme d'affaires. Les femmes sont-elles naturellement des leaders lorsqu'il est question de coopération ?
Si on regarde la parité du comité de pilotage, qui donc représente les 10 chefs de file des 10 pays, nous sommes 7 femmes pour 3 hommes. Donc effectivement, la dominante féminine est très marquée et nous retrouvons cette parité légèrement supérieure en féminin sur l'ensemble des 100. Oui, c'est vrai que notamment en Mauritanie, les femmes sont vraiment des acteurs importants. On remarque aussi l'extraordinaire accélération de la compétence des femmes au niveau éducation, au niveau technicité. Je crois qu'effectivement, les femmes sont une grande chance de cette nouvelle génération méditerranéenne.
Alors, quels sont, Patricia Ricard, les résultats attendus à l'issue de ce processus préparatoire ? Est-ce qu'il y aura des prises de position politiques ? Est-ce qu'il y aura l'annonce de projets communs ? Est-ce qu'il y aura un appel des 100, par exemple ?
Nous avons effectivement mis la durabilité et le climat en avant. Nous avons pris compte de l'essor démographique et de la demande de la jeunesse. Il y a une demande de mobilité très forte. Alors, c'est vrai que la mobilité n'est pas le ressort de la société civile, mais il y a beaucoup de propositions qui vont dans le sens du digital, de manière à avoir au moins une mobilité digitale. Une demande de mobilité de la part des artistes aussi, ou des associatifs, ou des étudiants. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est difficile de créer une génération méditerranéenne partagée, commune, s'il n'y a pas de rencontre possible et s'il n'y a pas de mobilité possible. C'est une région qui s'inscrit quelque part entre sagesse et jeunesse, et notamment sur la dimension énergétique. C'est une région qui a beaucoup de points communs sur les deux rives, c'est-à-dire que vous avez des fortes concentrations urbaines littorales, avec des demandes croissantes en matière d'énergie, et par ailleurs, des communautés plus reculées, un petit peu plus déconnectées des réseaux électriques et des réseaux de transmission numérique. Donc il y a ce double enjeu à relever. Et puis également, nous sommes arrivés à la nécessité de répondre par des actions d'économie circulaire, et notamment en revitalisant les vieilles cités historiques, de manière à ramener de la vitalité économique, numérique, digitale, culturelle et environnementale au sein des villes.
Vous l'avez dit, on a cette fois choisi d'impliquer plus fortement la société civile que dans le passé, dans ce genre de forum ou de sommet. Est-ce que le fait d'impliquer autant la société civile n'est pas un aveu d'impuissance pour les États, même si les États ont la volonté d'avancer et de bien faire ?
Je ne pense pas. Au contraire, je crois qu'aujourd'hui, il est évident que la société civile, à travers les réseaux sociaux, à travers la capacité de fédérer autour d'idées, est une partie prenante importante de la gouvernance. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la jeunesse aujourd'hui qui se bat contre le climat. Il n'y a qu'à voir la capacité aujourd'hui de lobbying positif que peuvent faire les associations dans les instances, qu'elles soient onusiennes, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient interrégionales. Je crois que c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'air du temps, et je crois que c'est au contraire à mettre au crédit d'un réalisme et d'une sagesse du politique que d'entendre et de collaborer avec la société civile qui est très présente sur le terrain. Il y a également des rapprochements inédits. Autrefois, il pouvait y avoir peut-être une distance, voire une compétition, ou en tout cas des postures différentes entre le monde économique et le monde associatif. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de collaboration et on voit des associations faire presque un rôle de consultant. On voit aujourd'hui qu'il y a différents acteurs de la société civile s'organisent de plus en plus en plateforme collaborative, en comité de pilotage, et que les projets aujourd'hui sont quelque chose qui fédère toutes les parties prenantes de la société civile, et je crois que c'est une des clés des réussites de transformation de certains projets. D'ailleurs, c'est une des clés que nous avions mis dans le critère, c'est-à-dire que, en plus de demander aux projets d'être portés par des pays rive sud et rive nord, de manière à ce qu'il y ait des passerelles entre les deux rives, nous avions proposé que ces projets puissent être à la fois partenaire d'une université, de manière à augmenter la capacité de déploiement et de recherche, qu'il puisse être partenaire d'une ONG, de manière à être dans l'acceptation sociétale et dans l'air du temps, qu'il puisse être partenaire d'une collectivité ou d'une institution, de manière à avoir un ancrage territorial et un portage politique, et qu'il puisse également être partenaire d'une entreprise, de manière à avoir une possibilité de pérennité économique. Et en fait, on se rend compte que la plupart des projets s'inscrivaient de fait dans ce spectre d'intégration totale.
Finalement, la société civile est un aiguillon pour les États, et la nouveauté, c'est que les États entendent la voix de cet aiguillon, finalement.
Plutôt que d'aiguillon, je préférerais parler plutôt de maturité. Je crois qu'aujourd'hui, nos capacités de communication et la vitesse avec laquelle les différentes parties prenantes d'une société peuvent communiquer créent un nouveau dialogue de gouvernance. Et je crois qu'il est évident que le politique s'en rende compte et l'entende, et justement collabore avec la société civile.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Nous sommes en compagnie de Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, chef de file des 10 personnalités qualifiées de la société civile française, qui participe demain lundi au sommet des deux rives, Forum de la Méditerranée, à Marseille. Patricia Ricard, parlons dans le détail des résultats attendus à l'issue de ce sommet. Y aura-t-il des créations d'infrastructures ou d'institutions ? Est-ce qu'il y aura des actions collectives Nord-Sud ? Et si oui, sur quels critères ?
Nous avons volontairement exclu la notion d'infrastructure pour deux raisons, parce que ce n'est pas la société civile de décider des grands travaux d'infrastructure. Parce qu'également, nous assistons aujourd'hui à une mutation dans beaucoup de secteurs, notamment la transition énergétique, la transition écologique, Et on voit très bien se redessiner des modèles économiques et des modèles de distribution qui vont plus vers une autonomie des grandes villes en termes de distribution électrique, une autonomie en termes de production alimentaire. On revient à des échelles territoriales, on revient au local, on revient à quelque chose qui va peut-être être plus proche de ce qu'aujourd'hui nous pouvons voir sur la rive sud, qui est un retour au local, au lien, au faire ensemble, au faire sur place, à la traçabilité. Et je crois que les grandes infrastructures font peut-être partie d'une époque et d'une vision qui n'est peut-être plus celle qui est aujourd'hui sur les feuilles de route de durabilité et de changement climatique. Nous avons aussi remarqué que nous avions des compétences qui pouvaient tout à fait s'assembler. Il y a eu beaucoup de cohérence sur les projets et nous avons eu très peu de difficultés à finalement intégrer les projets sud et les projets Nord, car il y a vraiment des grandes lignes de force qui s'imposent. Et nous avons même été surpris de voir à quel point le comité de pilotage, nous ne connaissions pas avant cette initiative, et nous avons réussi à avoir des séances de travail très productives, avec une vision très partagée. Ça a été la première surprise. On voit qu'il y a quand même ce boom démographique, et notamment sur la rive sud. Nous avons été surpris d'ailleurs, parce que la jeunesse, lorsqu'on lui a donné la parole, et notamment à Malte, n'a pas beaucoup exprimé la volonté d'être dans la croissance économique, la création d'emplois ou la création de richesses. Elle exprimait surtout un besoin d'expression et un besoin d'écoute et un besoin de participer aux gouvernances. Donc toute cette accélération digitale nous semble aujourd'hui très très importante, essentielle. Et on s'est rendu compte également qu'il fallait aussi à ce stade prévoir des programmes d'éducation pour l'encadrement et pour les accompagnateurs, pour les professeurs. Il y a vraiment une course contre la montre aujourd'hui pour répondre aux enjeux, pour répondre à la demande, de vraiment faciliter au moins l'agilité, le transfert de compétences et le dialogue digital à travers tous les outils dont on dispose aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est vraiment un lien commun des cinq pays. Ça a été une expression très forte. Et il y a eu d'ailleurs quelques jolis projets que je ne peux pas dévoiler tout de suite là, mais il y a eu des très jolis projets sur l'émergence du digital en Méditerranée, avec en plus une volonté de se servir de ce digital pour aller exposer, accompagner et expliquer les objectifs du développement durable qui sont en filigrane sur tous nos projets. Il y a également une volonté de faire un petit peu attention à la biodiversité, puisque la biodiversité est tout simplement à l'origine de toutes les traditions, hein, qu'elles soient culinaires ou qu'elles soient vestimentaires, c'est-à-dire que toute la tradition méditerranéenne, l'art de vivre méditerranéen n'existerait pas sans cette biodiversité extraordinaire, qu'elle soit végétale ou animale, que la qualité du tourisme en dépend, que les services écosystémiques des rives méditerranéennes ne peuvent pas fonctionner. Donc il y a une très forte prise en compte de l'importance de sauvegarder la biodiversité. Et puis, lorsqu'on arrive à cette dimension d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, eh bien ma foi, il est temps de se souvenir que la Méditerranée, et notamment dans sa rive sud, a vécu pendant des millénaires avec de l'eau rare et difficile d'accès, a vécu dans des maisons fraîche, et que la région méditerranéenne et les traditions millénaires ont déjà apporté des réponses tout à fait durables à ces menaces ou à ces contraintes. Et donc, cette idée étant de revaloriser un petit peu tout ce patrimoine architectural ancien en allant y puiser peut-être toute cette sagesse des anciens qui nous permettrait aujourd'hui de répondre autrement aux enjeux de, par exemple, de climatisation ou de préservation de la ressource hydrique.
Vous voulez dire donc, Patricia Ricard, que le Nord a beaucoup à apprendre ou à réapprendre du Sud?
Eh bien oui, je crois qu'il y a un changement de paradigme et effectivement si certaines différences complémentaires existent toujours avec peut-être plus de technicité au nord, on va se rendre compte que par le biais des réglementations, il y a plus de souplesse au sud, qu'il y a une jeunesse peut-être plus en demande au sud et qu'il y a déjà cette dynamique autour du local qui est très présent. Et je crois qu'effectivement la rive sud aujourd'hui a des réponses naturelles, spontanées aux enjeux d'aujourd'hui.
Alors, il y avait 272 projets présentés. On saura demain, lundi, combien seront sélectionnés. Mais précisément, les critères de sélection, c'est quoi? Il faut que les sujets soient faisables, il faut qu'ils soient finançables. C'est quoi les critères de sélection?
En fait, c'est des critères, j'allais dire, des critères normaux de sélection exigeante de projets. D'abord, il faut que le projet soit porté, puisqu'il faut faire la différence entre une idée, une proposition et un projet. Il faut que ce projet soit structuré, il faut que ce projet soit porté par des compétences, de l'expertise. Et il faut effectivement que les projets soient déjà dans le cadre de partenariats Rive Nord-Rive Sud. Il faut que ce projet réponde au moins à trois objectifs de développement durable. Et il faut que ce projet puisse avoir une capacité à la fois de déploiement, de réplicabilité, mais également de ce qu'on appelle le scale-up, c'est-à-dire de développement en puissance, en capacité et en taille. Il y a eu beaucoup de très beaux projets. Nous avons fait un travail d'intégration de manière à ne pas perdre cette manne, parce que c'est Il y a beaucoup de travail et de compétences derrière. Et nous avons construit ce qu'on appelle des projets parapluies dans lesquels on va retrouver les projets individuels, bien que portés par plusieurs partenaires. Nous avons raconté une histoire autour de chaque parapluie. Par exemple, sur l'Algérie et l'énergie, nous avons proposé d'appeler ça vers une sagesse énergétique. On ne passera pas du jour au lendemain à 100% d'énergie renouvelable, mais on peut aller vers la sagesse énergétique, c'est-à-dire augmenter la capacité de recherche éventuellement commune à plusieurs pays sur les énergies renouvelables et notamment les énergies marines, puisque chaque pays du 5+5 a des régions littorales. Également, voir comment on peut répondre à des demandes grandissantes sur les villes littorales et à forte densité et comment, avec des systèmes peut-être plus agiles, apporter de l'autonomie électrique et énergétique aux territoires les plus reculés. Aussi, ne pas oublier ces grands gisements, tout simplement de réduire considérablement votre nécessité énergétique en changeant, par exemple, vos procédés. On peut aussi passer d'une agriculture aujourd'hui très demandeuse d'électricité, d'énergie, à des pratiques agricoles plus différentes, type agrobiologie ou type permaculture, qui vont demander beaucoup moins de manipulation mécanique ou d'énergie. Également sur l'eau, parce que le couple eau-énergie est indissociable, et on pourrait même dire eau-énergie-déchets. Je crois que c'est le grand tiercé gagnant de la résilience et de l'adaptation de la région méditerranéenne. Cette sagesse consiste à considérer les besoins, les atouts et les nécessités éventuelles d'innovation de rupture pour atteindre cette sobriété dont on a besoin.
Patricia Ricard, on entend bien l'ambition de ces projets, mais comment et par qui seront-ils financés ?
Il y a dans le sommet des Deux-Rives un format institutionnel qui s'appelle le format des Ambiers, puisqu'il a été nommé ainsi suite à une réunion qui s'est tenue sur l'île des Ambiers, où vous allez avoir les 10 points focaux de ces pays, vous allez avoir 8 institutionnels et les 10 membres du comité de pilotage, qui ne seront pas forcément pérennes, mais en tout cas le format, lui, sera pérenne. Et là, vous avez les institutions, vous avez l'AFD, vous avez la Banque mondiale, vous avez la BERD, vous avez la BPI, vous avez l'Union européenne, il y a également la Fondation Analim qui était très présent. Voilà, donc en fait, ce sont toutes ces institutions qui se sont groupées pour à la fois accompagner les porteurs de projets qui ne sont pas suffisamment aguerris à l'exercice technique et à la technicité du project management, mais également qui vont intégrer ces projets à leur propre programme ou accompagner également financièrement les projets qui ont été choisis. Mais malgré tout, il est important de se souvenir que ces projets doivent être portés par des individus de la société civile qui vont faire en sorte que ce projet puisse atteindre ses objectifs. Aucun projet n'existe s'il n'y a pas de l'énergie, de la passion et beaucoup de travail derrière.
En prenant l'initiative de ce sommet des deux rives, le président de la République française, Emmanuel Macron, a pour ambition de relancer la dynamique de coopération méditerranée-occidentale. Est-ce à dire, Patricia Ricard, que cette dynamique était en panne jusque-là ?
Je ne dirais pas que cette dynamique était en panne, mais je pense que de toute façon, le monde entier aujourd'hui doit renouveler sa dynamique, quelle qu'elle soit, pour répondre aux enjeux qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur le réchauffement climatique, il n'y a plus de doute sur l'explosion démographique, il n'y a plus de doute sur l'effondrement de la biodiversité et les impacts que ça peut avoir, y compris sur des phénomènes de flux migratoires massifs. Je crois qu'aujourd'hui, la réalité de la planète, la réalité de notre relation au vivant et notre relation à l'énergie est impactante. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la Méditerranée a toujours été un creuset pour les civilisations et je crois que cet objectif d'avoir le 5+5 est une formidable opportunité de mettre en place cette vision qui devrait être finalement un enjeu mondial. C'est comment aujourd'hui on vit ensemble à plusieurs et comment on peut aller pour faire de moins en mieux, pour reprendre la très belle expression d'Anne-Sophie Novel. Les scientifiques, lorsqu'ils parlent de la mer Méditerranée, disent toujours que c'est un océan modèle et je crois que la région méditerranéenne peut redevenir une civilisation modèle, réconcilier homme-nature, homme-femme. Voilà, je crois qu'on peut rentrer vers une société de résilience et de réconciliation.
Merci Patricia Ricard.
Merci à vous.
Présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, vous participerez demain au sommet des Deux Rives, Forum de la Méditerranée à Marseille. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golshani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Passez une bonne semaine fidèle à la Radio Mondiale. Tout de suite, le journal.